Ils auraient pu habiter ça ou là, du côté de la ville qui tourne le dos à la mer, mais le hasard voulut que ce fût à Petite Venise. On racontait tant et tant de choses sur ce quartier. Tant et tant de choses blessantes qui ne pouvaient pas être de simples calomnies puisqu'elles venaient de la bouche même de ceux qui habitaient Petite Venise. Pour Ninga, cependant, seul comptait le soulagement d'avoir un toit qui lui offrait au moins l'espoir de voir un jour Kota retrouver sa voix. En effet, avant d'arriver ici, ils avaient trouvé refuge chez Busenji, née avant Ninga du ventre d'une de ses tantes. Durant les quelques jours qu'ils passèrent là-bas, Kota ne prononça pas un mot. Personne dans la maison de Busenji ne songea à lui reprocher ce mutisme qu'on déplorait, certes, mais qui, aux yeux de chacun, s'expliquait tout à fait. L'homme n'est pas fait pour vivre chez les parents de l'épouse. Et Kota était un homme. Quand elle comprit cela, Ninga se sentit coupable. N'avait-elle pas usurpé le rôle de l'époux en prenant l'initiative d'aller demander l'hospitalité des siens? Elle, faite épouse, aurait dû pourtant savoir. Quelles que soient les circonstances, jamais un homme bien né ne devait se retrouver là où elle voyait Kota. Le jour même, elle se mit à parcourir la ville dans tous les sens. Cette ville qu'elle ne connaissait pas, mais qui devait à tout prix lui permettre de réparer sa faute. Elle voulait un toit où Kota pourrait de nouveau se sentir la poutre qui soutient. À force d'interroger, elle le trouva à Petite Venise. Busenji, né avant elle du ventre d'une de ses tantes, lui dit que c'était bien. Il alla même jusqu'à payer la somme qu'exigeait le propriétaire pour le loyer. Sous le nouveau toit, Kota retrouva en effet la voix. Mais ce ne fut pas comme Ninga s'y attendait pour lui dire qu'il se sentait de nouveau la poutre qui pouvait soutenir. Dans la nouvelle demeure, Kota ne lui indiqua pas la place qui revenait à une femme faite épouse. Quand il parla pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la case en terre battue entre le grand fromager et la rivière de Gros Galet, ce fut dans un murmure, en une langue étrange, évasive, où Ninga chercha en vain celle, laconique mais claire, à laquelle Kota l'avait habituée. Elle s'en réjouit malgré tout. Que Kota ait émis ses sons, qu'il ait été capable de proférer une parole, même déliée, et c'était aux yeux de Ninga un premier pas vers elle qui attendait, lavée de toute faute, que l'époux vienne lui dire à nouveau qu'elle était l'épouse, assise à son côté.
« Je sais, »
répétait-elle sans cesse.
« Je sais que tout ici te blesse, mais c'est provisoire. Ils ont promis de nous reloger. Ils nous ont promis une terre. Ils tiendront leurs promesses. »
Et chaque fois, Kota marmonnait d'une voix sans timbre en sa langue étrange, incompréhensible, qu'accompagnait le mouvement de son pied qui battait le plancher délabré de la bicoque, comme pour donner la mesure d'une musique que lui seul écoutait. De temps en temps, il levait sur Ninga ses yeux vides, pleins seulement du rouge mis par l'insomnie. On aurait dit alors qu'il voulait qu'elle lui dise ce qu'il n'arrivait pas à cerner, malgré tous les efforts qui creusaient deux sillons sur son front et raidissaient son corps. Et toujours Ninga suppliait. Personne jamais ne lui avait appris à formuler des réponses aux questions que se posaient les hommes. Elle était habituée à ce qu'on lui dise. Voilà que Kota semblait vouloir la forcer à dire. Et elle qui ne saurait pas. Elle qui ne comprenait déjà rien à ce qui leur arrivait et dont la seule certitude était qu'il fallait continuer à vivre. Les yeux de Kota l'emplissaient de désarroi. Pour ne pas les soutenir, elle détournait le visage et regardait tout autour d'elle, se demandant seulement par où commencer. Il y avait tant à faire sous ce toit où elle voulait que son homme soit la poutre qui soutient, et elle, l'épouse assise à son côté. Pour Anka, jamais au contraire le monde n'était apparu aussi simple. Si simple qu'il n'était nul besoin de faire appel à d'autres yeux. Ici, tout lui semblait muet sans que le silence soit au regret. Tout était muet parce que fait pour l'être. Ni nord, ni sud, ni ouest, ni est, seulement ce centre qu'il ne rattachait ni ne comparait à rien. Petite Venise, là, étalée devant lui. Rien de plus que ce qu'il voyait. une terre coincée entre les collines et un vaste champ où les racines aériennes des palétuviers s'enchevêtraient au-dessus de l'étendue boueuse. Un quartier dans un creux, sans horizon, où s'agglutinaient dans le désordre des constructions de fortune faites de matériaux hétéroclites. Du contreplaqué aux branches du palmier, en passant par les caisses, les bidons, et les fûts ayant contenu des produits venus d'au-delà des mers. Tout ce qui pouvait à moindre frais protéger de la pluie, du soleil et du vent entrait dans cette architecture branlante. Certaines bicoques s'agrippaient aux flancs des collines érodées par la pluie et où le vert des hautes herbes et des maigres champs de manioc alternaient avec le rouge de la latérite. D'autres, comme celle où Anka et ses parents habitaient, étaient posées sur de gros piquets plantés profondément dans le sol. On y accédait par une espèce d'escalier fait de troncs d'arbustes. Petite Venise. Rien de plus que ce cœur de transistor, ce tintement d'ustensiles, ces huées, ces algarades, ces rires montant des arrières-salles où la bière et la sueur coulaient à flots sous les beuglements des haut-parleurs. Rien d'autre que le va-et-vient pressé entre le puits et les bicoques. Le va-et-vient de ceux qui partaient gagner un salaire, faire le marché, demander un renseignement, répondre à l'appel du parti, assister à un match de football, voir un film hindou, un parent, un ami, quelque part, de l'autre côté des collines. Et toujours la nuée d'enfants courant pieds nus à l'heure où le soleil, assis au milieu du ciel, jouait avec les morceaux de verre épars. Et toujours les chiens faméliques, reniflant on ne savait quel trésor sur le sol jonché de détritus, et où montait avec l'odeur de la boue celle d'un cadavre en décomposition venant se mêler au fumet des sauces. Alors, face à son père et à sa mère, Anka se dressa avec la férocité d'un animal défendant son territoire contre tout empiètement. Il se dressa contre eux qui voulaient rompre le silence des choses qu'il souhaitait éternelles. Là, entre collines et marécages, il se mit à hurler en silence qu'il n'y avait rien, rien d'autre que ce qu'il voyait. Père et mère comprenaient-ils ? Anka regardait et n'était point blessée.